La masterclass de Wim Wenders par Caroline Brouet.
Une masterclass avec Wim Wenders aujourd'hui. Une masterclass enregistrée le 7 juillet 2023 en public de la Cour Fanton à Arles. Une masterclass dont le principe consiste à comprendre comment un artiste, une artiste construit une œuvre. Quel est le processus de création depuis son origine jusqu'à son achèvement? Oui, c'est un long travail, surtout avec cette chaleur. Wim Wenders, vous comptez parmi les plus grandes figures du cinéma contemporain. Vous êtes un cinéaste à cheval sur deux siècles, sur deux, sinon trois continents. Vous êtes le réalisateur de films qui ont traversé les âges depuis les années 70-80. On peut citer bien sûr Alice dans les villes, L'ami américain, Paris, Texas, qui a reçu la Palme d'or à Cannes en 1984, ou encore Les ailes du désir. Mais ce serait une erreur de réduire votre œuvre aux années 70-80, même si vous avez été une superstar du cinéma d'auteur dans ces années-là, voire une figure de proue de ce qu'on a appelé le jeune cinéma allemand. Parce qu'avec une parfaite régularité de 6-7 films par décennie, et fort de 36 œuvres en 50 ans de carrière, vous avez su vous réinventer pour perdurer. En témoignent des œuvres comme The Buena Vista Social Club, The Million Dollar Hotel, Don't Come Knocking, Pina, Everything Will Be Fine, Le Sel de la Terre, et les deux derniers, bien sûr, Anselme, Le Bruit du Temps, sur l'artiste Anselme Kiefer, et Perfect Days, qui ont tous les deux été présentés au Festival de Cannes en 2023. Alors on pourrait se demander ce qui réunit tous ces films, toutes ces œuvres, c'est un peu ce qu'on va faire pendant une heure avec vous. Peut-être on pourrait dire déjà un goût pour le voyage, les arts, des histoires de filiation, le passage du temps, peut-être aussi une vision du monde. Je vous demanderai laquelle dans un instant. Mais vous vous consacrez aussi en parallèle de votre activité de réalisateur, de producteur et d'auteur à la photographie. Et nous sommes ici à Arles, donc il sera bien entendu question de photographie, d'autant que certaines de vos œuvres sont exposées ici à Arles. C'est des polaroïdes que vous avez réalisées pendant le tournage de L'ami américain. Mais le reste de vos photographies a été exposé dans des musées, dans des galeries, dans le monde entier. Bah, peut-être justement, votre vision du monde, Wim Wenders. Est-ce que si je dis à la fois lucide et contemplative, ce sont deux adjectifs qui vous conviennent? Vous avez le droit de dire pas du tout.
Lucide, pas du tout. Contemplatif?
Un peu plus.
Encore plus. Absolument. Et un élément de contemplation dans mon œuvre, ça je suis sûr. Il y a des films que plein de gens trouvent beaucoup trop longs. Et ça, c'est l'aspect contemplation que je crois.
Pourquoi pas du tout lucide? Certains voient votre œuvre, dans certains films en tout cas, avec une dimension visionnaire. Sur la place des images, sur la saturation des images, sur la technique que vous utilisez, bien sûr on va y revenir. Mais pourquoi pas lucide?
Je suis ni intellectuel, ni historien, ni j'ai une grande vision du monde. Je fais des films. Et quelquefois, un film, c'est un peu le monde. Mais je n'ai pas le master plan du monde. Et la lucidité, c'est quelque chose que j'admire, que je vois dans des gens. Mais moi, je m'occupe toujours d'une chose. Et pour la lucidité, on a une plus grande vision.
Ce sont plutôt les arts qui vous occupent, qui vous nourrissent, que l'actualité, alors, ou la façon dont le monde va ou ne va pas, quand vous créez une œuvre, quelle qu'elle soit, hein, là c'est en général, hein, on va s'arrêter sur quelques-uns des films, mais là, disons en général, si tant est qu'il y ait une méthode générale, est-ce que ce sont toutes ces œuvres d'art, toutes ces formes artistiques qui vous nourrissent depuis toujours?
Déjà, comme enfant, j'avais le problème que je voulais trop faire. Je voulais écrire et peindre et jouer un instrument et voyager. Et puis j'avais un appareil de photo. Un an plus tard, j'avais un appareil 8 mm. Puis j'ai voulu devenir architecte. Mon problème, c'était que j'ai toujours trop voulu. Et finalement, découvert. Et puis j'ai voulu devenir peintre. C'était le plus important, après tout. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une seule profession ou un seul truc, c'est le cinéma, qui était quand même en connexion avec tous. Et donc, j'ai fait du cinéma, mais inspiré par la musique, l'architecture, les paysages, le voyage. Je suis en première profession voyageur. Et pour chaque travail, j'ai essayé de rendre justice au lieu et au sujet qui était devant moi. Ce n'était pas une vision globale, mais c'était toujours cette histoire-là, ce personnage-là, cet endroit, parce que la plupart de mes films commencent avec des lieux.
Commence avec des lieux, dans des lieux aussi. C'est-à-dire là où vous étiez, puisque vous êtes né en Allemagne, vous êtes né à Düsseldorf. C'est très important, Wim Wenders, parce que vous êtes né à la fin de la guerre. Vous êtes né en 1945. Vous avez choisi de ne pas rester en Allemagne. D'ailleurs, contrairement à plusieurs de vos compatriotes, mais contrairement notamment à l'artiste Hansel Kiefer, à qui vous venez de consacrer une œuvre documentaire, lui a choisi de rester en Allemagne, non seulement d'y rester, mais de se confronter à cette histoire, de se confronter à sa mémoire dans l'œuvre. Vous, vous êtes parti parce qu'il n'était pas question de rester dans cette Allemagne nazie et meurtrie quand vous étiez jeune.
Quand j'étais jeune, c'était pas... Qu'est-ce que je savais des nazis? Je savais rien du tout. C'est venu plus tard. À l'école, là, j'avais peut-être 17 ans quand j'ai commencé à m'occuper de l'histoire de mon pays. Jusque-là, le seul mouvement, c'était en avant. Tous les gens voulaient créer un avenir. Personne ne regardait sur les épaules. Il n'y avait pas de passé. Et pour un certain temps, quand on est enfant, ça, c'est super. L'avenir, on adore. Et tout le monde travaillait sur la même chose. Et c'est peu à peu que je me suis rendu compte ce qui manquait, c'était le passé. Et quand je me suis rendu compte ce qu'était comme passé, je voulais en effet seulement partir. Et... En plus, je me suis rendu compte que moi, je suis né dans les ruines. Les premières années de ma vie, j'ai rien vu que ça. Et on trouve ça génial comme enfant, mais quand on se rend compte, le monde est vraiment beaucoup différent et très, très beau dans d'autres pays. J'ai voulu sortir déjà comme enfant. J'ai pris ma bicyclette pour essayer d'entrer en Hollande, mais je n'avais pas encore une carte d'identité. Ils m'ont arrêté. Déjà, comme enfant, je voulais sortir. Puis plus tard, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti.
Vous êtes parti à Paris, d'abord?
À Paris, oui.
En 1966, vous commencez à faire des études de peinture, mais vous avez découvert la Cinémathèque française, alors la voie bifurquée, puisque vous avez découvert des milliers de films qui vous ont abreuvé de leur richesse. Et puis, vous êtes parti aux États-Unis, début des années 70. Les États-Unis, ça, c'est le vrai lieu d'origine, le vrai lieu de départ. Vous y avez vécu 10 ans, vous avez fait de très nombreux films. Qu'est-ce qui vous fascinait aux États-Unis? Est-ce que vous étiez aussi nourri de cette culture américaine avant d'y aller? Ou c'est là-bas que vous vous êtes nourri de la culture américaine?
J'avais quand même rencontré l'histoire du cinéma à la Cinémathèque. J'ai vu, en effet, un millier de films. Et la plupart venaient d'Hollywood et aussi les auteurs allemands que j'ai connus seulement à la Cinémathèque, ils étaient là-bas. Ils ont fait un beau travail là-bas. Et pour moi, c'était depuis mes premiers films un désir de voir comment c'était, de m'épreuver dans ce méca du cinéma à Hollywood. Donc, la première occasion qui se présentait, c'était Francis Coppola qui m'a invité pour faire un film à Los Angeles. J'ai pris. Et c'était une énorme leçon dans ma vie. C'est là, pendant les 4 ans que j'ai pris de faire ce film, 4 ans, 4 scénaristes et 44 versions de scénario pour faire un film. C'était un peu exagéré. Et finalement, j'ai compris que jamais dans la vie je serais un Américain. Et que j'étais pas capable de faire des films américains tels que je les aimais. Je savais faire des films, mais j'étais européen et je savais faire des films européens. Je pourrais peut-être faire des films aux États-Unis, mais pas des films américains. J'ai appris ça et je me suis aussi accepté comme romantique allemand. Et donc, je suis revenu. Mais c'était une bonne leçon, vivre aux États-Unis et comprendre qui on est et réaliser qu'on est mieux en Europe.
C'est là aussi, Wim Wenders, que vous avez sans doute éprouvé cette façon de pouvoir faire des films sur les espaces, voire sur les grands espaces. Dans votre cinéma, c'est un cinéma du voyage, puisque vous disiez pour vos premières professions voyageurs, mais pas un film sans une route, sans une voiture, il y a des avions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bicyclettes. Il faut demander vraiment à ceux qui sont très, très...
Ça va venir.
Ça va venir, voilà. On passe aux bicyclettes.
Et il y a des trains.
Il y a des trains, évidemment. Il y a des villes.
Des bateaux, des hélicoptères.
Aux États-Unis.
Tout ce qui bouge.
Exactement, tout ce qui bouge. On va y revenir. Mais donc, ça va de New York au désert pour les États-Unis. Mais vous êtes aussi allé donc en Allemagne, dans votre pays d'origine, au Portugal. Il y a un autre pays que vous aimez beaucoup, c'est le Japon, où vous avez notamment réalisé un documentaire il y a 40 ans, Tokyo Ga, sur Ozu, le grand cinéaste Ozu. Donc il y a Tokyo aussi, il y a Cuba, Buena Vista Social Club. Enfin, on ne va pas tous les citer. Pourquoi faut-il que ça bouge? Pourquoi toujours du mouvement?
Je me suis rendu compte que j'étais dans une vraie tradition allemande quand j'ai traversé l'Australie, par exemple, parce que toutes les montagnes, tous les fleuves, toutes les vallées avaient des noms allemands. Parce qu'ils étaient découverts par des explorateurs allemands. En Afrique aussi, on trouve partout des choses qui ont des noms allemands, parce que les premiers gens qui étaient là, c'était des Allemands. Alors je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul Allemand voyageur. Bon, je ne sais pas, les Allemands adorent voyager. D'autres gens adorent plutôt rester chez eux. Et il y a deux classes de metteurs en scène. Il y a ceux qui font tous leurs films chez eux, chez lui ou chez elle. Fellini a fait tous ses films en Italie, à Rome. Ozu a fait tous ses films à Tokyo. Et d'autres ne font jamais des films chez eux, mais sont dans le monde. Et moi, je suis un de ceux-là.
Vous êtes dans le monde, mais aussi vos films sont dans le monde. C'est-à-dire le mouvement, ce n'est pas seulement le vôtre. C'est aussi dans les films que ça bouge. Dans les films qu'on prend des trains, dans les films qu'on prend des voitures et qu'on roule sur des grandes routes. En permanence. C'est d'ailleurs presque paradoxal pour un amateur d'images fixes, autrement dit de photographie comme vous. C'est intéressant dans votre cinéma, Wim Wenders. Il y a à la fois beaucoup de mouvements, peut-être là ça vient de la photo ou de la peinture, vous allez nous le dire, et l'importance cardinale de la beauté formelle du cadre, de l'image justement, fixe. On a un cadre et pourtant on a une voiture qui roule. Comment on fait ça?
Bon, le cadre, c'est un mot-clé pour moi, parce que c'est avec le cadre qu'a tout commencé. En regardant les peintures, déjà quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'étais le seul jeune homme de 6 ans qui entraînait ses parents dans les musées, et pas vice-versa. Et le cadre, j'ai compris, c'était tout. Toute la beauté avait besoin d'un cadre. Et ce qui était hors de cadre, on ne pourrait jamais voir. Alors le cadre, déjà quand j'ai commencé à faire mes premiers films, c'est le cadre qui a précisé ce que je pourrais voir et montrer. Et j'ai un besoin énorme de la forme. Et j'ai fait des films sans scénario. Et les gens s'étonnent que Les Ailes du désir a été fait pratiquement sans scénario, ou d'autres films aussi, Au fil du temps, ou Alice dans les villes. Il n'y avait pas de scénario et les gens s'étonnent parce que c'est des films quand même qui ont un gage assez précis. Et mes documentaires aussi, c'est pas un peu partout, mais ils ont un langage assez formel. Et pour moi, ça c'est l'essentiel. C'est comme ça que je peux m'exprimer dans une forme. Et comme j'ai tout appris de la peinture, la première forme, c'est le cadre. Et puis avec le cinéma, on peut faire un peu plus. On peut faire bouger la caméra, mais ça reste toujours un cadre. Même si le voyage, le cadre... Ça reste un cadre, il ne va pas un peu partout, ça reste une forme assez précise et sans cette forme, je suis un peu perdu. Par exemple, quand je n'aime pas un endroit, et ça arrive quelquefois dans ma vie que tout d'un coup on tourne dans un endroit qu'on n'a pas choisi soi-même et qu'on n'aime pas, et puis je ne sais même pas où mettre ma caméra, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Je dois avoir un rapport avec le lieu pour savoir quelle forme convient à ce lieu. Et chaque film, pour moi, c'est un effort de trouver la forme pour le sujet, quoi que ce soit, un documentaire aussi. Il faut trouver le langage pour un film. Et seulement quand j'étais jeune cinéaste, quand j'ai fait seulement 2 films ou 3, je me suis dit, oh, maintenant je sais faire du cinéma, maintenant je sais comment ça marche, je peux faire n'importe quoi. C'était une énorme faute. Faire quelque chose parce qu'on sait comment ça se fait, c'est la plus grande erreur. Après cette erreur, j'ai seulement fait des films où je ne savais pas comment les faire. Jusqu'à aujourd'hui, si on me demande de faire un film parce que tu sais faire ça, ou ça serait super pour toi, cette histoire, ou ce personnage, ou ça, j'ai dit non, je ne peux pas faire un film parce que je sais comment le faire. Je veux seulement faire des films que je ne sais pas comment les faire. Et c'est ça le seul intérêt pour moi de faire du cinéma. D'arriver à comprendre comment trouver un langage pour tel sujet, pour Anselm Kiefer, ou au Japon pour un homme qui nettoie les toilettes. Il faut trouver la forme dans laquelle tout ça, ce qu'on veut raconter, se trouve bien encadré, dans le bon cadre, pour ainsi dire.
Ce qui ne veut pas dire, Wim Wenders, que le point de départ d'une fiction ou d'un documentaire soit la forme. C'est-à-dire que la forme vient après.
Non. On dirait, hein?
Je pose la question.
Non, la forme ne vient pas d'après. Moi, j'ai besoin de la forme pour pouvoir être précis et pour pouvoir un regard d'amour vers un sujet. Si ce regard n'est pas une forme, le regard d'amour, il se perd. C'est un peu partout. Il faut pouvoir avoir un regard spécifique et tendre avec amour sur une chose. Il faut que ce regard a sa forme. C'est un peu aussi très souvent avec des écrivains ou des peintres. Sans une forme, ils sont perdus. Le titre, par exemple, ça fait partie de la forme. Je ne peux pas faire un film sans titre parce que je ne connais pas sa forme. Le titre me donne l'idée que je vais aller quelque part et je suis en route et le titre précise mon voyage.
Oui, mais quand même, vous avez fait des films, vous avez fait notamment beaucoup de portraits d'artistes. Nick's Movie, c'était sur Nicolas Ray. Tokyo Ga, je l'ai cité tout à l'heure, c'était sur Ozu. Buena Vista Social Club, sur ce formidable groupe de musique cubain. The Soul of Man, sur la musique blues. Pina, sur Pina Bausch. Le sel de la terre, sur Sébastien Salgado. Anselm, sur Anselm Kiefer. Là, ça n'est pas de la forme. Ça n'est bien de votre envie, voire de votre amour
Mais
de
vous,
ces artistes.
Vous reconnaissez bien qu'il y a certains noms dans les titres.
Oui.
Lisbon Story, Les ailes du désir en allemand, il s'appelle Der Himmel über Berlin.
Oui.
Tokyo Ga, il y a une ville là-dedans. Pina, il y a un prénom. Anselm, il y a un prénom. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même une précision dans le titre. Et Paris, Texas, bien qu'on n'a jamais tourné dans la ville de Paris, Texas. Un jour, je suis venu et les gens étaient fâchés avec moi. On a fait une projection de Paris, Texas à Paris, Texas. C'est petite ville de 20 000 personnes. Ils avaient encore une salle de cinéma. Et puis, les gens ont vu le film et ils ont dit, mais notre ville n'est pas dedans. Pourquoi vous osez appeler le film Paris, Texas si vous ne tournez pas chez nous? Et bon, ils étaient mécontents. Ils n'ont pas compris que Paris, Texas, ce n'était pas un lieu, mais c'était un haïku. Paris et Texas, c'est quand même... Ça a défini le film. Et ça définit la vie de cet homme central. Et il le raconte une fois dans le film. Bon, mais c'est notre histoire.
Restons sur l'usage des différents arts, déjà dans votre cinéma. Puisque d'abord, le cinéma est partout dans vos films, et pas seulement parce que vous avez donné plein de rôles à plein de metteurs en scène, mais aussi parce que la photo est là. Concrètement, les personnages principaux de plusieurs de vos films sont des photographes. La peinture est là, Hopper, dans The End of Violence, par exemple, Hopper à qui vous avez consacré un court-métrage, en 3D, la 3D, je la garde pour plus tard, très importante. La peinture, donc, la musique, évidemment, la littérature, Dashiell Hammett, on n'a pas cité ce film dont vous parliez tout à l'heure, à l'invitation de Coppola, mais d'autres, avec Sam Shepard, avec Peter Hanke, bon. Est-ce qu'il y a un art, l'architecture, pardon, j'allais oublier l'architecture, puisque votre film en cours est sur Peter Zumthor, cet architecte que vous filmez depuis 10 ans, qui a fait les thermes de Valls en Suisse et qui va faire le prochain musée d'art moderne de Los Angeles. Donc, est-ce qu'il y a un art que vous n'aimez pas ou que vous ne fréquentez pas, qui ne vous sert à rien dans votre cinéma?
Non. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pas un seul qui ne m'intéresse pas. Je croyais que la danse n'avait rien à foutre.
La danse, j'ai oublié la danse.
Je croyais, puis j'ai vu le travail de Pina Bausch. Depuis ça, je suis inconditionnel. Mais il n'y a pas un art que je voudrais négliger ou pour lequel je n'ai pas le plus grand respect. Et où ça m'intéresse comment ils font ça. Comment ils font ce qu'ils font. Ils n'ont même pas une caméra. Et quand même, ils font quelque chose de tellement beau. Comment ils le font? Je sais maintenant un peu comment le font les écrivains et maintenant je sais un peu comment le font les peintres, les photographes avec Salgado. Maintenant, je suis en train d'explorer comment le fait un architecte. Comment il voit une maison qui n'existe pas encore. Comment il regarde un terrain, il veut construire quelque chose dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Et Peter Zumthor, c'est un cas idéal pour en parler parce qu'il a fait énormément de pensées avant qu'il fasse son premier dessin. Il a très très peu construit parce qu'il construit strictement ce qu'il veut vraiment faire et ce qu'il trouve nécessaire. Et c'est quand même unique. Il a un tout petit bureau, il a quand même gagné le prix Pritzker. Et tous les architectes que je connais, dans une autre vie, ils veulent être Peter Zumthor. Parce qu'ils ne seront pas forcés à construire tout le temps n'importe quoi. Alors, c'est un architecte modèle pour parler de l'architecture. Mais là, je ne sais pas encore grand-chose.
Est-ce que ça nécessite des connaissances pour vous avant de faire un film sur tel ou tel artiste ou sur tel ou tel art ou d'ailleurs, une pratique? Est-ce que vous dansez? Lisez, je sais que vous lisez beaucoup. Est-ce que vous faites encore de la peinture? La photographie, bien sûr, on va y venir. Est-ce que vous jouez de la musique? Est-ce que ça vous aide de pratiquer ou pas?
Pour un bref moment de ma vie, j'ai joué à la clarinette et au saxophone. Mais je me suis rendu compte humblement que je n'avais pas de talent. Et puis, le saxophone, c'était la chose la plus chère que je possédais. Et chez un vendeur où on peut donner ses affaires, on a de l'argent. Dans la fenêtre, il y avait une Bolex 16 mm qui coûtait une fortune, mais mon saxophone aussi coûtait une fortune. Je suis entré pour savoir qu'est-ce que vous me donnez pour mon saxophone. Il a nommé un prix. J'ai dit non, je veux le prix de ce Bolex 16 mm. Alors on m'a dit, oh, voilà, parce que c'est vous, je vous la donne. Et on a fait un échange, mon saxophone contre la caméra, et c'était la fin de ma carrière de musicien. Tout court. Plus jamais je voulais jouer un son parce que je l'avais trahi, mon beau saxophone. Et pendant une semaine, je suis passé devant cette fenêtre, je l'ai regardé avec une grande remorse. Mais finalement, avec ce Bolex, j'ai fait quand même 4 ou 5 films et j'ai fait tous les films de mes copains parce que j'étais le seul qui avait une caméra 16 mm.
Et la photo, à quel moment vous en faites? Vous en faites depuis près de 50 ans, je crois déjà, hein?
Sérieusement, je suis devenu photographe dans l'année 1983. Et avant, j'ai fait des photos. J'ai fait des photos déjà comme enfant. J'ai toujours fait des photos. Mon père était amateur photographe, mais puis il est devenu médecin et chirurgien. Il n'a plus fait de photos, mais il m'a donné tout son équipement et la chambre noire et tout ça. Alors j'étais déjà habitué à faire des photos à l'âge de 7-8 ans. Et je l'ai toujours fait. Mais jamais c'était une profession. C'était toujours bien, on pouvait s'exprimer. Et j'ai adoré le faire, mais jamais, quand j'ai fait mon bac, jamais ça m'est venu à l'esprit que je pourrais faire quelque chose dans ce domaine. Alors je suis photographe depuis que j'étais petit, mais je suis devenu photographe en 83, quand je me suis acheté, à Tokyo d'ailleurs, un appareil Blaubel Makina. C'était un moyen format, un très très bel appareil. Et je l'ai pris pour voyager dans l'Ouest américain tout seul pendant 3 mois pour comprendre la lumière de l'Ouest. Le Montana, Nouveau-Mexique, Arizona, le Texas. Et je voulais être prêt à affronter cette lumière pour le prochain film, ce serait Paris-Texas. Et comme l'Ouest, il y a des couleurs incroyables, c'est un pays technicolore. au Kodachrome plutôt. Alors, j'ai fait des photos en couleur et après, j'avais tellement pris l'habitude et j'adorais tellement être... Parce qu'avant, j'avais jamais fait une photo de couleur et après, j'ai plus jamais fait une photo de noir et blanc. Alors, je suis un peu excessif chaque fois. Alors, je suis devenu photographe avec cet appareil et cette mission de comprendre la lumière de l'Ouest américain. Et après, j'ai fait des tirages, j'ai fait des expositions. Ma toute première, c'était au Centre Pompidou, par exemple. Ils ont entendu que j'ai fait des photos au Texas, ils voulaient les voir. Et après, j'ai pris ça très au sérieux. Et je me suis dit, tiens, le bureau du photographe, c'est vraiment autre chose qu'un metteur en scène. Parce qu'on est dans un autre esprit. Toutes ces photos de l'Est américain, j'étais toujours tout seul. Et je me suis rendu compte, prendre une photo, c'était un acte très, très solitaire. S'il y avait quelqu'un derrière moi, c'était autre chose. Et aussi, maintenant, je peux faire des photos avec mon iPhone de vous tous, mais ce n'est pas la photographie. Je dois être seul et je dois être en voyage et ne pas savoir où je vais aller pour pouvoir faire des photos. Les photos, c'est une façon de découvrir et c'est quelque chose de solitaire. Et donc, mes photos, c'est toujours des paysages, et des maisons, et des déserts, et des routes, et des stations de service, et des cinémas, et toutes sortes de choses.
Mais c'est en marge des films, ou c'est toujours en lien avec des films à venir, des films en train d'être tournés, ou c'est complètement indépendant comme pratique, c'est pour vous-même?
Au début, c'était lié à me préparer à Pas Texas. C'était pas un repérage. Aucune de ces photos est devenue un lieu de film. Mais c'était une idée pour comprendre ce que c'était l'Ouest et l'affronter sans modèle, sauf mon propre modèle. J'ai voulu faire Paris-Texas sans penser à John Ford ou Howard Hawks ou tous les grands metteurs en scène qui ont fait des films dans le Western. Je voulais pas faire un film qui existait, qui avait un modèle. Donc, mes 1000 photos et 3 mois dans l'Ouest, c'était une forme de préparation de voir moi-même les couleurs de l'Ouest et pouvoir imaginer un film qui n'avait pas de modèle dans le cinéma. Et après, la photographie est devenue quelque chose que j'ai fait tout seul et sans film. Et si je fais un voyage, c'est ou pour préparer un film ou pour faire la photographie, mais ce n'est pas les deux ensemble. Et je n'emmène pas mon vrai appareil photo, pas mon iPhone, sur un voyage où je vais faire un film. C'est devenu une autre profession.
Dans Alice dans les villes, le personnage principal est photographe et il dit à propos des photos, elles ne montrent jamais ce qu'on a vu. Est-ce que c'est ce que vous reprendriez à votre compte, Wim Wenders?
Il a dit ça innocemment. À l'époque, il faisait des Polaroids et il s'est complaint ce qu'il y avait dessus ne c'était pas ce qu'il avait vu. Et moi, je fais toujours un grand effort pour ce qu'il y a dessus, ce que j'ai vu, mais ça n'arrive pas toujours. Très souvent, la photo est une chose à part. C'est pas mon regard et pas moi, c'est la forme du cadre fait que ça devient autre chose. De nouveau, la forme, c'est ultra important pour moi. Et j'ai tout appris sur le cadre par les peintres, donc je fais un peu la photographie comme si j'étais devenu peintre.
C'est ça au letter qu'on peut voir ici aux Rencontres d'Arles 2023, qui dit dans un petit film qu'on voit dans l'exposition, la photographie apprend à regarder. Alors vous avez appris à regarder avec la peinture, mais est-ce que la photographie a confirmé ce regard? Est-ce que c'est même cadre? Il y a lumière et cadre avec la photo.
Tous les grands peintres vous apprennent à voir. Tous les grands photographes aussi. On apprend à voir. Ils prennent l'acte de voir si sérieux qu'ils sont devenus aussi des maîtres sur la façon de voir. Alors, les grands peintres, on rentre dans leurs univers et on apprend une nouvelle façon de voir. Si on l'adopte, c'est à vous-même, mais vous voyez un autre acte de voir et c'est génial de voir qu'il y a d'autres façons de regarder le monde. Et j'ai tellement appris des peintres, et quand on est jeune, on apprend le plus. Donc j'ai plus jamais appris autant que des peintres. J'ai rien appris des autres photographes sur la photo, et à vrai dire, j'ai aussi pas appris grand-chose par l'histoire du cinéma sur comment faire des films. Je fais toujours référence à des peintres. C'est resté comme ça parce que c'était le plus fort. Quand j'étais jeune et quand j'étais enfant, la peinture, c'était sacré. Et le monde n'était pas si beau que les photos et la peinture.
C'est-à-dire que aller voir les films à la Cinémathèque française à Paris vous a fait l'effet d'une révélation avec cette possibilité de faire des films, donc de voyager à travers le cinéma, par exemple. Mais c'est l'histoire de la peinture qui vous a appris, vraiment, comment on fait. C'est ça.
Dans les films que j'ai vus, j'étais jeune, je ne connaissais pas l'histoire du cinéma. J'ai vu quelques films en grandissant, mais je ne connaissais pas l'histoire du cinéma. En voyant l'histoire du cinéma, j'ai reconnu les peintres derrière. J'ai reconnu mes peintres dans le cinéma. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de grands maîtres cinéma qui connaissaient aussi bien la peinture. Et ça marche de l'autre côté aussi. Beaucoup plus tard, j'ai connu l'œuvre de Edward Hopper. C'était un peintre qu'on ne pouvait pas connaître en Europe. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas une seule œuvre de lui en Europe. Mais je l'ai connu aux États-Unis dans les années 70. Encore, personne ne le connaissait en Europe. Mais je me suis rendu compte que là, il y avait un peintre qui, lui, connaissait le cinéma. Et puis, je me suis rendu compte un peu, j'ai lu son biographie. Tous les jours, il est allé au cinéma. Là, il y a un peintre qui a tout appris du cinéma. Et maintenant, il y a plein de cinéastes, moi y compris, qui ont appris de lui. Alors, c'est devenu un cercle.
Et en photographie, quels sont vos maîtres? S'il y en a.
Il y a Anson Adams. Et il y a des photographes classiques.
Walker ouais. Evans, par exemple.
Walker Evans, c'était un peu le modèle d'un film. Les photos de Walker Evans sont devenues le langage au fil du temps, par exemple. On avait des tirages de ces photos avec nous, le caméraman et moi. Et chaque fois qu'on voyait une maison en tôle ondulée, on s'est arrêté, on a tourné parce que le tôle ondulée, c'était le langage de Walker Evans, pour ainsi dire, dans le Dust Bowl américain. Alors, il n'y avait pas tant de buildings en tôle ondulée chez nous, alors on est sauté pour tourner chaque fois qu'on voyait un Walker Evans dans le paysage.
Dernière question sur ce lien entre la photo et le cinéma, et je vais à nouveau citer une exposition qui est ici, à Arles, aux Rencontres 2023. C'est l'exposition consacrée à Agnès Varda et à la façon dont elle a fait son premier film en 1954, sur un quartier A7. On voit vraiment les liens entre les planches contact, les photographies et les extraits de films. Et on voit en quoi le regard, on y revient, le cadre, la forme, le regard du photographe, l'a sans doute aidé à filmer. Vous nous dites que votre pratique est une pratique à part. Vous ne faites pas des repérages pour les films maintenant quand vous faites des photographies. Mais malgré tout, est-ce que la photographie, ce regard que vous avez quand vous êtes derrière une petite lentille ou avec votre téléphone portable, pour être un peu plus moderne, est-ce que ça vous aide après à filmer, quand même?
Ça ne m'aide pas tellement, à vrai dire. Et ce film, ce premier long-métrage qu'elle a fait, Agnès, La Pointe Courte, c'était le film d'une photographe. Une photographe qui commence à apprendre comment bouger la caméra. C'était le premier film de la Nouvelle Vague. C'était pas un homme, c'était une femme qui a commencé la Nouvelle Vague. Vous allez voir le film, c'est invraisemblable d'observer une photographe en train de faire on sait même pas, un documentaire et en même temps une drame amoureuse. Il n'y a pas un autre film dans l'histoire du cinéma que le premier film d'Agnès Varda. Il faut absolument le voir et voir aussi ses photos. Mais la question, c'était une autre.
Oui, la question, c'était est-ce que vous aussi, parfois, il vous arrive de filmer avec l'œil du photographe? Parce que malgré tout, vous êtes aussi photographe.
Oui, surtout quand j'ai fait les films sur Salgado, il fallait le faire avec son œil, pour ainsi dire, ou comprendre ses yeux et comprendre son langage. Finalement, toute sa photographie était noir et blanc et il parle de sa photographie, alors il a fallu faire un film qui, dans son cadre et qui, dans son langage, reste dans l'univers photographique, pour ainsi dire. C'était pas si facile parce qu'il nous emmène quand même sur un voyage aussi en Brésil. Mais j'ai vraiment essayé de faire un film comme un photographe sur un autre photographe.
Vous disiez tout à l'heure, Wim Wenders, que vous avez fait dans votre longue carrière aussi bien des fictions que des documentaires, ce qu'on appelle le cinéma, hein, mais on peut séparer effectivement les fictions des documentaires. Vous n'écrivez plus les scénarios, parfois même il y a eu une discontinuité du récit, alors même que vous tourniez les films en écrivant un petit peu, mais aujourd'hui vous travaillez avec des scénaristes. Vous n'écrivez plus, vous produisez les films, mais vous ne les écrivez plus, vous les faites écrire, si on peut dire ça comme ça. Quel rapport à la fiction avez-vous aujourd'hui ?
Moi je suis toujours au moins le co-auteur. Et j'ai jamais aimé écrire un film. C'est pour ça que j'ai fait des films sans scénario, parce que je me suis dit, peut-être tu arrives mieux à écrire le soir après le tournage, quand tu dois comprendre ce que va tourner le lendemain. Et c'est autre chose que un mois avant ou trois mois avant, être à la maison et écrire un scénario. C'est autre chose d'être en tournage et essayer de comprendre ce qu'il faut tourner le lendemain. Ça, c'est un autre acte d'écrire. Mais c'était pas vraiment pour moi l'écrire. J'ai toujours voulu avoir un copain écrivain. Finalement, j'ai fait pas mal de films avec des écrivains et pas des scénaristes. La plupart de mes collaborations, c'était avec des écrivains qui n'écrivaient pas normalement des scénarios. C'est des écrivains de théâtre ou des romanciers. Parce que moi, j'aime pas écrire tellement. Et si j'écris un film, tout le monde parle comme Wim Wenders, et ça, c'est pas bien. Tous les personnages, je sais pas écrire pour comment j'écrirais le dialogue d'une femme. Il y a des scénaristes et des auteurs qui savent faire ça, mais pas moi. Moi, j'essaie d'écrire comment je parle. Alors, si tous les gens dans mes films parlent comme moi, ça devient un film chiant.
C'est pas vous qui avez écrit le dialogue du réalisateur dans The End of Violence quand il dit « Pourquoi je fais des films en Amérique, j'aurais dû rester en Europe ?»
Ah oui, je sais bien donner ma voix à un metteur en scène. Ah oui, là pour une fois, oui. Mais j'adore les collaborations et mon rêve c'était toujours d'avoir l'écrivain avec moi pendant le tournage. Avec Paris Texas, j'aurais presque réussi parce que Sam a écrit le scénario. Et c'était un peu entendu qu'il aurait sur le tournage avec moi. Et c'est pour ça qu'on a écrit seulement la moitié du scénario et le reste, on a voulu développer pendant le tournage. Et comme ça, il connaîtrait l'histoire et tout. Mais puis, il est tombé amoureux de Jessica Lange quelques semaines avant le tournage. Et puis, il ne voulait plus faire un film avec moi. Il était devenu acteur avec Jessica à son côté. Il est à 3 millions de kilomètres à part. Et moi, j'avais seulement la moitié du cinéma et lui tournait avec Jessica. Bon, finalement, il a compris que toutes les nuits, on devrait téléphoner pendant les heures pour qu'on commence à écrire la fin. Enfin, c'est pas réussi. Mais j'ai fait des films où j'avais l'auteur à mon côté. Par exemple, au Japon maintenant, Perfect Days, le co-scénariste, il était toujours sur mon côté. C'était bien parce que je parlais pas le japonais. Mais il n'était pas traducteur. Il était le scénariste avec moi, et ça c'était un bonheur. Si le scénariste est là sur le plateau, il n'y a rien de mieux. Et si on reste ami, ça c'est encore mieux. Parce qu'entre metteur en scène et scénariste, surtout aux États-Unis, il y a très souvent des conflits. Et aux États-Unis, les productions même encouragent cet antagonisme entre metteur en scène et auteur. Mais mon rêve, c'est toujours d'avoir quelqu'un qui sait écrire à côté de moi. Deux, trois fois, j'ai réussi.
Et puis peut-être que ça vous permet de faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire tout à la fois, Wenders, puisque vous disiez que petit, vous aviez envie de trop faire, vous avez dit trop faire tout à l'heure. Peut-être un côté très curieux, très boulimique peut-être aussi, de d'art. Mais j'ai ouï dire que vous travaillez sur plusieurs choses en même temps, sur plusieurs sujets en parallèle. Vous n'êtes pas sur un seul film à la fois ou sur un seul projet à la fois?
La pandémie nous a forcés de faire produire un film très lentement, toujours dans les pauses et toujours dans les lieux où on avait le droit de tourner, c'est-à-dire des lieux clos avec Anselm Kiefer dans ses studios. On a pris 2 ans et demi pour tourner le film dans 7 étapes. Et une fois que la pandémie était finie au Japon, finalement je pourrais retourner au Japon j'avais le droit, parce qu'avant, on ne pouvait pas, il n'y avait pas de visa. On a fait un film en toute vitesse, le film le plus vite que j'ai jamais fait dans ma vie. Là, en ce moment, l'année dernière, on ne savait pas encore qu'on allait le tourner. Et maintenant, il est dans les salles bientôt. Normalement, je travaille sur un film. Mais comme aujourd'hui, ça devient tellement difficile de financer les films, quand j'étais jeune, je faisais un film par an pendant 10 ans. C'était un vrai privilège. Je regarde les jeunes aujourd'hui, ils font leur premier film, après pas mal de... Ils rament beaucoup pour le faire, et puis ils doivent ramer pendant 3 ans pour faire le prochain. Et plus personne a cette condition de pouvoir travailler avec une continuité. Ça n'existe plus. Je ne connais plus les jeunes cinéastes qui peuvent faire travailler avec une continuité. Alors c'était un énorme privilège pour moi. Et j'aime pas attendre, et c'est pour ça que, parce que ça prend si longtemps, aujourd'hui, je commence à préparer un autre déjà. Un peu contre moi, j'aimerais bien travailler seulement sur un film, mais c'est, si on recommence à zéro après, on fait le prochain film dans 4 ans, alors c'est pas si bien. Donc j'adore travailler, et l'idée de faire un film et puis attendre 3 ans pour faire le prochain, ça me va pas. Alors je suis un peu forcé à préparer déjà le prochain lentement.
Est-ce que vous avez l'impression que les films s'enchaînent, non pas dans le temps, mais de façon signifiante? C'est-à-dire qu'on peut faire des ponts entre les films, qu'il y a des clins d'œil. Je vous pose la question, mais en partie, j'ai travaillé pour la poser, c'est-à-dire que j'ai regardé un certain nombre de vos films à nouveau. Et puis j'ai vu par exemple le métro de Wuppertal dans Alice dans les villes, qu'on retrouve évidemment dans Pina. Entre Everything Will Be Fine et Nick's Movie, il y a vraiment des liens, des correspondances. Entre l'enfant dans Alice dans les villes et Paris, Texas, mais de toute façon l'enfant par rapport à l'adulte, la filiation, c'est aussi un fil continu. Entre Les ailes du désir et Perfect Days, peut-être sur le regard vers le monde. Est-ce que vous, en tous les cas, vous les pensez comme ça? Ou est-ce que c'est complètement inconscient?
Plutôt ça. Plutôt ça. Je me rappelle que j'ai fait un gros plan. Je voulais, c'était pas dans le scénario, mais je voulais faire un gros plan de cette actrice en train de dormir. Elle dort. Alors, on a fait le plan et elle faisait semblant de dormir, évidemment. Et puis, j'avais l'impression que je n'avais jamais filmé une personne en train de dormir avant. Et puis, c'est elle qui m'a dit, mais je connais tes films, et c'est la 5e fois que tu filmes une personne dont... Et je dis, c'est pas vrai. Alors, elle m'a nommé les films. Et c'est là, oui, elle avait raison. Évidemment, j'aime bien filmer les gens en train de dormir. Mais je ne savais pas. J'avais aucune conscience que j'avais déjà fait ça. Parce que si j'avais cette confiance, je ne le ferais pas, je crois. Alors c'est bien qu'il y a quand même pas mal d'impulsivité dans le cinéma et pas mal de spontanéité pour faire des choses. Et évidemment, on a une histoire dans soi-même et on a un rapport vers le monde et on a une certaine affinité et on a un certain regard. Et il y a des gens qui ont un regard critique, et il y a des gens qui ont un regard d'humour. Et moi, j'ai compris mon propre regard. C'était un regard d'affection. En anglais, c'est plus facile, c'est « the loving look ». Et c'est ça la nature de mon regard, parce que je ne filme que des choses que j'aime beaucoup. Je ne pourrais pas faire un film avec des acteurs que je ne respecte pas ou que je n'aime pas. Ça m'est arrivé une fois, c'était l'horreur. C'était vraiment difficile de filmer quelqu'un que j'avais compris je ne pourrais pas vraiment aimer. Alors j'essaie de faire des films sur des choses ou des situations ou des endroits ou un métier ou une personne que j'aime. J'ai tellement aimé la chorégraphie de Pina Bausch, j'ai dû faire un film là-dessus, et c'était un film avec un regard d'amour. Et ça, ça définit un peu mon travail. Je ne peux pas travailler autrement. Et j'ai fait un film sur le pape et tout le monde m'a reproché que ce n'était pas un film critique. Alors, j'ai dit, comment ferais-je ? Ce n'est pas moi. Je ne fais pas un film pour critiquer quelque chose. Je fais un film parce que j'ai un grand amour, un respect pour cette personne ou cette situation ou cette profession. Je n'étais pas en train de faire un film sur le Vatican, je faisais le portrait d'un homme. Et cet homme, je l'aimais beaucoup. Donc je ne peux pas faire un film critique sur lui. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire et c'est plein d'autres qui savent le faire très très bien. Alors, ce n'est pas moi. Je ne peux pas faire un film, un regard critique. Je pourrais à la rigueur, mais je ne sais pas si j'avais envie.
Un regard d'affection, de loving look, mais aussi un regard qui plonge en profondeur, alors en profondeur dans le temps, mais pas seulement dans le temps, en profondeur aussi dans les espaces, et notamment, je pense à ces films que vous faites en 3D. C'est très important qu'on parle de ces films en 3D en quelques mots, Wim Wenders, parce que, outre que pour le spectateur ou la spectatrice, ça nous met vraiment en immersion, on est dedans, donc ça devient plus une expérience qu'autre chose. Vous êtes un des rares, en fait, à faire des films d'auteurs en 3D. Sinon, c'est du grand spectacle. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Vous faites des films d'auteurs qui nous permettent de voir un peu plus. Plus exactement, de vivre plus. Pourquoi ça ne prend pas plus, la 3D ? C'est compliqué, c'est cher. Pourquoi vous êtes encore un des seuls à le faire ?
Je ne sais pas. Je trouve que c'est un scandale qu'on m'a laissé seul. Parce que c'était un outil merveilleux. On a rêvé de ça. Tout le cinéma a rêvé de ça depuis les Frères Lumière qui avaient déjà un patent pour un cinéma en 3D. Mais pour eux, c'était trop compliqué, justement. Alors, ils ont fait seulement une caméra au lieu de deux. Et il y a un film de Méliès qui est en 3D maintenant parce que Méliès, il était rusé. Il faisait les films avec deux caméras à côté. Une caméra, c'était le film pour la France. L'autre, c'était pour les États-Unis parce qu'il a exporté. Finalement, ils ont vu sur une photo qu'il travaillait avec deux caméras parallèles. Ils ont pris le film américain, L'arrivée sur la Lune. Ils ont pris le film français. Ils ont mis les deux ensemble. Ils ont vu le décalage de l'un à l'autre. Et ils ont fait un film 3D parfait. Il avait déjà fait un film 3D sans savoir parce qu'il avait deux caméras parallèles. C'est tout ce qu'il faut. Il faut deux yeux. Et après, encore un peu plus pour que ça soit physiologiquement correct. Le film de Méliès n'était pas physiologiquement correct, mais c'était pas mal. C'est-à-dire, c'est un rêve du cinéma depuis le début. Et finalement, on a ce langage qui permet de voir plus. Et depuis, mes amis metteurs en scène qui ont vu Pina, ils ont tous dit, oui, c'est incroyable. On voit plus que jamais. Et c'est pas seulement l'espace. Évidemment, il y a l'espace. Ça, c'est la moindre des choses. Mais il y a aussi volume. Et il y a une présence. Il y a une présence qui est complètement différente de la présence d'un film plat sur un écran. Parce que vos cerveaux sont beaucoup plus actifs que dans chaque film avant. Même sur les films que vous aimez tellement, et vous êtes vraiment dedans, votre cerveau, il y a seulement une partie de votre cerveau qui travaille. En 3D, il y a le triple du cerveau qui est employé. Et ça se remarque dans la perception. On voit plus. C'est fou comme on voit plus. Et je ne comprends pas pourquoi l'industrie du cinéma a pris ce langage pour en faire une attraction, pour gagner un peu plus d'argent, parce que ça coûte un peu plus cher, un film 3D, ce qui est ridicule. Et pour faire disparaître le fait que c'est un autre langage, c'est un langage poétique comme tout. Il n'a jamais eu ce langage poétique dans l'histoire du cinéma, comme le 3D. Regardez Pina, encore une fois, ou Hansen,
qui va sortir
bientôt. Et on a appris beaucoup dans les 15 ans entre les films. Et la technologie a beaucoup mieux. On peut faire des choses dont on a toujours rêvé comme cinéaste. Et je comprends pas pourquoi l'industrie a tué ce langage.
Puisque vous parlez des rêves des cinéastes, et que depuis vos premiers films, Wim Wenders, vous vous interrogez sur le cinéma et son avenir, ou sa mort, dans Alice dans les villes par exemple, le personnage apprend à la fin la mort de John Ford, c'est évidemment symbole, vous avez vous-même filmé la fin de vie de Nicolas Ray. Le cinéma est même le sujet d'un film en 1982, aujourd'hui devenu culte, Chambre 666, non seulement culte, mais du coup il y a eu un remake cette année, 2023, avec Chambre 999, et c'était un film dans lequel vous réunissiez un certain nombre de grands réalisateurs, de grandes réalisatrices du moment, il y avait Jean-Luc Godard, il y avait Spielberg, il y avait Herzog, il y avait Antonioni, c'était dans une chambre d'hôtel, et vous leur demandiez si le cinéma était un langage en train de se perdre, si c'était un art qui allait mourir. En 82, à l'époque, il y avait l'éruption de la cassette vidéo, du magnétoscope, il y avait la multiplication des chaînes de télévision, il y avait la fermeture du cinéma. Mais alors aujourd'hui, 40 ans plus tard, on a la concurrence des plateformes de streaming, on a l'omniprésence des images avec nos smartphones, on a le désengagement des chaînes de télé, et il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Alors comment voyez-vous ce cinéma, son avenir? Évidemment, les salles ferment aussi beaucoup, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous êtes inquiet, pessimiste ou optimiste?
Je suis le seul mec qui apparaît dans les deux films. J'ai déjà dit quelque chose en 82 et là, dans le film
de Luba Playoust.
Voilà, cette jeune femme qui a fait son premier long métrage, qui est vraiment un film génial et qui arrive à faire un film où on entend une trentaine de réponses sur l'avenir du cinéma et à la fin du film, on est sur le bout de son siège et tout le monde, ils ont tous hors de souffle parce que c'est tellement passionnant. Et après la fin du film, à Cannes, tout le public ne voulait même pas sortir. Devant la porte, ils ont commencé. Chacun avait sa vision de l'avenir du cinéma. Et la multitude des opinions qu'on entend est ahurissante. On entend des aspects d'un possible avenir du cinéma qu'on n'a pas pensé soi-même. C'est incroyable. C'est vraiment
incroyable. Parce que ce film a été présenté dans le cadre de Cannes Classique 2023, hein, voilà. Chambre 999.
Chambre 999, ça va aussi ouvrir, je crois. Et je recommande ce film parce que c'est passionnant, parce qu'on se rend soi-même comment on a besoin du cinéma, ou si on est plus vieux, comment on voudrait que les enfants ou les jeunes connaissent le cinéma, ce que ça manquerait s'ils n'avaient pas cette expérience. Alors c'est un sujet passionnant. Et moi, dans ma propre réponse avec laquelle commence donc le remake, j'ai fait le pessimiste. C'est contre ma nature, je suis un éternel optimiste, mais j'ai donné une réponse négative un peu pour que les gens se réveillent un peu, parce que ça dépend de vous, ça dépend du public, si le cinéma va exister et continuer à exister ou pas. Et comme des milliers de gens ont pris l'habitude des streamings pendant les dernières 3 ans, et une grande partie de ce public ne revient pas. Je croyais. J'étais à Paris il y a 3 jours. Je me suis promené, j'avais un peu de temps. Tous les 3 jours, le soir, je suis allé dans un cinéma. C'était toujours plein. Et j'ai vu des vieux films. J'ai vu, il y avait une restauration du Samouraï que j'avais vu comme étudiant. C'était mon film favori, culte, mais j'ai jamais revu, seulement une fois en 68. Je suis allé le voir. C'était plein la salle. Un vieux film. Puis le lendemain, je suis allé dans Studio Christine. Par hasard, j'ai passé. Il y avait une longue queue dans la rue. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Il y a de la glace ou quoi? Parce qu'il faisait chaud. Non, ils faisaient la queue pour voir East of Eden. J'étais tellement emballé que je me suis mis à la fin de la queue. Alors, ma réponse est plutôt positive. Je crois qu'on a besoin de cinéma. On a besoin de ce contexte social, et si le cinéma disparaît, dans 20 ans, des jeunes vont l'inventer parce que c'est nécessaire. Ils vont inventer un truc génial qui est interactif et tout, qui va s'appeler cinéma.
J'ai une dernière question, Wim Wenders, à propos de la reconnaissance. Vous avez rencontré de très grands succès, vous avez aussi essuyé des échecs, vous avez remporté de très nombreux prix, plusieurs films ont été présentés et primés au Festival de Cannes, idem aux Oscars. Vous avez eu un ours d'argent à Berlin, un lion d'or à Venise, un ours d'or pour l'ensemble de votre œuvre, un ours d'or honorifique à Berlin. En 2022, vous avez eu le Premium Imperiale, qui est le Nobel des Arts. En 2023, le Prix Lumière, qui vous sera remis à l'automne, en octobre. Et le Prix Lumière, c'est le Nobel du cinéma, c'est comme ça qu'on le présente. Est-ce que vous êtes sensible aux honneurs, aux titres, aux prix, aux succès, aux échecs? Qu'est-ce qui compte le plus, le prix du public, la reconnaissance? Vous avez compris.
Qu'est-ce qu'on fait avec les prix, vraiment? Il n'y a plus place sur le bord. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je l'ai tous donné à ma fondation. Ils adorent les prix.
La Wim Wenders Foundation.
Moi, je suis content que je n'ai plus un seul chez moi. Et je ne suis pas un cinéaste meilleur parce que j'ai eu des prix, ou pire parce que je n'ai pas eu des prix. Je ne lis pas les critiques non plus, parce que si on lit que les bons, il faut lire les mauvais. Et si on lit les mauvais, on est de mauvaise humeur, ça ne sert à rien. Ni les bons, ni les mauvais, ça sert à quelque chose. Il faut pas, je ne fais pas les films pour avoir des prix, mais je fais des films pour parler avec les publics après. Je fais toujours des mois où je suis les films à travers plusieurs pays pour parler avec les publics. Ou avec vous, devant un public. Mais j'adore l'interactivité avec le public, et beaucoup mieux que de faire des interviews ou à la télé. Mais j'adore voir les publics, et c'est pour ça que je fais le film. Parce qu'un film n'existe pas parce qu'il y a une copie. Aujourd'hui, il n'y a même plus des copies, il y a des disciplines. Le Digital Cinema Package, un disque dur, c'est tout le film. Vous travaillez 3 ans, et puis il y a un truc qui est gros comme un chocolat, et c'est votre film. Et un film n'existe pas parce qu'il y a une copie ou ce disque ou un compact ou Actes Sud, bien que c'est bien si c'est là. On est content si on se retrouve là. Mais ce n'est pas ça. Le film n'existe pas parce qu'on peut l'acheter. Le film existe parce qu'il y a des gens qui voient. Et donc chaque personne qui voit un film pour la première fois ou deuxième fois, c'est ça que le film existe. C'est pour ça que je fais des cinémas, pour mettre des images dans vos yeux et vos têtes et vos cœurs.
C'est une façon de remercier le public qui s'est déplacé voilà. Pour vous écouter aujourd'hui. Un grand merci, Wim Wenders.
Merci d'avoir assisté dans le soleil.
C'était la masterclass de Wim Wenders par Caroline Brouet. Enregistré pendant les rencontres de la photographie à Arles. Prise de son, Virginie Lorda, Georges Thau et Benoît Chapon. Chargé de production, Francesca Fossati. Réalisation, Alexandre Fougeron.